Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 77 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui du dialogue avec nos enfants. C'est un sujet que j'avais un petit peu abordé du point de vue de l'enfant dans l'épisode 19, que je vous invite à écouter aussi, et que j'avais évoqué aussi sur le fait de parler tout simplement avec nos enfants dans l'épisode 12. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à revisiter cette posture qu'on a vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis de la conversation qu'on a avec eux au niveau de l'échange de nos idées, tout ce qu'on partage au niveau des mots, des notions et aussi l'écoute de leurs réponses. Pour moi, le dialogue, c'est vraiment poser des mots, ouvrir la parole vis-à-vis de ce que vit l'enfant, de ce qu'il ressent, de ce qu'il comprend, comme moyen justement de s'approprier son monde quotidien, sa vie quotidienne, comme moyen d'avoir un petit peu de puissance sur le monde qu'il découvre à peine, suivant l'âge qu'il a, entre 1 et 5 ans, au tout début du langage. Et ça va être une manière aussi de poser des mots au lieu de parler avec son corps, au lieu de partir avec des gestes. Donc cette puissance qu'on voit en maternelle du mot va souvent permettre de limiter aussi les effets de violence et les effets de gestes un peu incontrôlables. L'intérêt de ce dialogue avec l'enfant, c'est de lui montrer justement comment ça se passe pour l'autre, de l'aider à se décentrer, de l'aider à avoir plus confiance dans ce qu'il voit, dans ce qu'il comprend, et à élargir son monde intérieur et son monde extérieur. Nous aussi, ça va nous permettre de mieux comprendre comment il évolue, comment il grandit, et ça va aussi élargir notre monde à nous. Donc, dans une première partie de cet épisode, je vais vous dire ce que n'est pas dialoguer avec l'enfant, donc les idées reçues qu'on a sur le dialogue avec un enfant. Après, je vais vous dire pourquoi c'est si important de poser un dialogue vraiment constructif et de qualité avec nos enfants. Et dans la dernière partie, je vous dirai quelles sont les pistes et les astuces pour favoriser justement un dialogue de qualité avec nos petits. Donc déjà, le dialogue, j'avais envie de vous préciser que le dialogue, ce n'est pas faire une conférence à notre enfant, ce n'est pas lui expliquer tout ce qu'on a déjà compris, puisque nous, on est adultes et on a un gros niveau d'énoncé, on a un gros niveau de lexical, on a un gros niveau de structuration, de logique. Donc ce n'est pas lui dire tout ce qu'on a compris de la vie, ce n'est pas lui dire tout ce qu'on sait déjà. Le dialogue, c'est se mettre à un niveau d'énoncé qu'il est capable d'entendre et de produire. On y reviendra tout à l'heure, mais si je prends le sujet de la mort ou de la sexualité, évidemment, l'enfant qui va poser une question autour de la mort, autour de la sexualité, autour de la peur, il arrivera avec son filtre et son bagage à lui, qui va être très différent du nôtre, de notre expérience et de notre bagage à nous. Donc le dialogue, dans un premier temps, ce n'est pas montrer toutes les connaissances qu'on a, nous adultes, par rapport à l'enfant. Ce n'est donc pas descendant, ce n'est pas dominant, ce n'est pas celui qui a raison et qui est l'expert de la vie, ce n'est pas non plus celui qui va soumettre ou faire obéir l'autre à ses idées, à ses notions. Pour moi, le dialogue, il a une notion très importante d'horizontalité. C'était le tout début de ce podcast, l'épisode 2. Peut-être que vous étiez déjà là à l'époque et je vous remercie pour votre fidélité. Et ça ne va pas non plus être le dialogue de mettre une étiquette ou de fermer l'attitude ou le comportement de notre enfant dans une case. C'était l'épisode de la semaine dernière. Donc quand on va dialoguer avec notre enfant, Il va pouvoir émettre des énoncés, des productions, des affirmations qui peuvent nous mettre en difficulté, qui peuvent nous surprendre, peuvent nous déclencher une émotion. Et ça, toute la qualité de notre dialogue, ça va être de ne pas l'enfermer dans ce qu'il vient de dire, dans ce qu'il vient de demander. C'est juste fugace, c'est juste éphémère. Qu'on ne va pas le réduire à cette seule conversation. On ne va pas non plus commander quelque chose autour de ce dialogue. On ne va pas en tirer un certain pouvoir, une certaine domination. C'est important de le poser là, parce qu'en tant qu'adulte, on se croit souvent l'expert dans un dialogue avec nos enfants. Et je vais vous amener à beaucoup plus de vulnérabilité et d'humilité dans la façon de parler avec eux, ce qui va aussi permettre à l'adolescence de passer un cap décisif dans la confiance, justement par les mots et par la discussion. Et puis le dernier point, c'est vraiment le dialogue n'est pas à ramener sur toute la vie. Le dialogue, c'est ponctuel. Le dialogue, c'est juste un moment présent. On est dans quelque chose qui est impermanent. On a le droit de changer d'avis dans le temps. On a le droit d'avoir une discussion le lundi et de penser différemment le vendredi. Mais on y reviendra tout à l'heure dans la troisième partie du podcast. Donc voilà tout ce que le dialogue n'est pas. Et j'ai envie de passer maintenant à la partie pourquoi est-ce que le dialogue serait utile et important quand on a envie d'éduquer nos enfants, quand on a envie d'élever nos enfants. Et puis je me remets aussi à ma casquette d'enseignant. En quoi le dialogue dans la classe a pu permettre aux enfants de grandir et surtout de se voir grandir, puisque c'est beaucoup ce qui m'intéressait dans les objectifs de se découvrir et découvrir aussi le groupe, notamment dans le dispositif des moins de 3 ans. La première raison pour laquelle le dialogue est important à installer avec notre enfant ou notre élève, c'est qu'il arrive à se connaître dans sa singularité à lui. Qu'il arrive à découvrir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il croit, ce qu'il a compris. Donc on est complètement dans sa rayure jaune d'identité. Lui faire comprendre par ses choix de mots, par ses choix de questions, de paroles, qu'il a déjà des idées, qu'il a déjà des opinions, qu'il a déjà une certaine connaissance de lui-même, un peu de sa valeur, qu'il va évoluer sans doute, qu'il va mûrir, qu'il va avoir une maturité intellectuelle, émotionnelle, et qu'on peut déjà faire un petit point d'ancrage à chaque fois qu'on a une discussion avec notre enfant à 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un point de rencontre sur ses compétences actuelles, sur son point de croissance, toujours en évolution. Et ça, on l'avait abordé dans l'épisode 37 qui s'appelait « Pas encore ». La deuxième importance de mener un dialogue avec notre enfant tout jeune, c'est de se soutenir sur le long terme. L'éducation, je le ramène vraiment très souvent au long terme, mais c'est par les toutes petites situations du quotidien qu'il va pouvoir enrichir sa base de données, qu'il va pouvoir mettre à jour ses connaissances et ses compétences, donc aussi bien ses savoirs académiques et scolaires, mais aussi ses savoir-faire pratiques et ses savoir-être en compétences de lui à lui et de lui par rapport aux autres et par rapport au monde. À chaque fois qu'on va dialoguer avec notre enfant, ça va pouvoir le soutenir en lui faisant confiance et en lui faisant ressentir l'importance qu'il a dans notre vie en tant que famille, en tant que groupe, en tant qu'appartenance, en tant que classe, en tant qu'association ou loisir. À chaque fois qu'on va parler avec un enfant, on va lui attribuer une juste place dans le dialogue, dans la situation, dans le quotidien. Du coup, sur le court terme, il va pouvoir se sentir reconnu, entendu, écouté. Il va voir aussi que sa parole compte. Il va voir aussi que son intérêt du moment a du sens pour celui qui l'écoute, que son émotion du moment est entendue, est légitimée, est visibilisée et que peut-être, s'il a un problème, il sera aussi compris, entendu et soutenu. Donc tout ce dialogue n'est pas sur des choses forcément anodines. Ça peut être un dialogue sur le repas du midi, bien sûr. Quand on a les enfants qui reviennent à la fin de la journée, on peut leur demander ce qu'ils ont fait comme activité, ce qu'ils ont mangé à la cantine. Mais le dialogue va aussi servir sur des moments un peu plus difficiles. Donc quelqu'un qui pleurerait dans la rue, quelqu'un qu'on voit à la sortie d'un enterrement. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens pleurent? Donc tous ces dialogues, tous ces moments de conversation vont toucher parfois des sujets sensibles, des sujets tabous et vont mettre à jour sa base de données à lui. Troisième importance, c'est de préparer l'avenir vraiment sur sa capacité d'autonomisation, sur sa capacité d'indépendance, de prise de position vis-à-vis des conséquences de ses décisions, vis-à-vis des conséquences de ses actions et de ses pensées. Plus on dialogue tôt avec un enfant et un élève, plus il se rend compte que les conséquences ont eu lieu parce qu'il a dit, fait ou pensé ça. Qu'on va réapproprier le fait que le résultat a une cause normale, consciente, légitime. Et on va lui offrir en fait cette conscience-là. On va lui offrir le fait que le petit garçon à côté de lui pleure parce qu'il lui a tapé sur la tête avec le camion rouge. On va remettre juste de la description, de la cause, de la conséquence. Après, on peut aller plus loin, mais lui proposer déjà de mettre un petit peu de conscience sur ce qui s'est passé en dehors de lui, sur ses actions, sur ses gestes, va lui permettre de prendre un peu de distance et va lui permettre de comprendre comment sa vie impacte celle des autres et comment sa vie impacte même ses réactions à lui, ses émotions à lui sur le long terme. Et enfin, le dernier point sur l'importance du dialogue, ça va être que quand il sera ado, notre petit loulou, hein, peut-être que vous avez du mal à vous projeter pour l'instant parce qu'il a 1 ou 2 ans, mais quand il sera ado, quand il aura 14, 15, 16 ans, de vous dire que tous ces moments de dialogue, tous ces moments de discussion que vous avez eus avec lui quand il était jeune, ça vous sert sur le long terme d'être le porte-avions de votre enfant. C'est une image hein, que j'ai souvent utilisée dans les rooms ou dans les podcasts, qui est de Anne Reynaud, qui dit que le parent reste à disposition sur le reste de la vie de l'enfant, une fois qu'il a pris son envol, une fois qu'il a pris son autonomie, son indépendance, au niveau des études, au niveau des relations de couple et tout ça. Mais d'être à disposition de son enfant, c'est d'avoir créé un espace de confiance, un espace où il est capable de venir déposer ce qui lui arrive, ce qu'il vit intérieurement, ce qui est difficile pour lui. Non pas pour tout raconter à son parent, parce que c'est peut-être pas le meilleur interlocuteur pour lui, mais d'avoir au moins cette solution-là un jour, de venir parler à une personne de confiance, ça pourrait être aussi son parent, notamment si on a créé ce lien de dialogue, d'écoute mutuelle depuis la jeune enfance, depuis la petite enfance. Rester le porte-avions pour plus tard, rester la base de référence en tant que sécurité émotionnelle, intellectuelle, affective. Alors, je ne vous dis pas encore comment on fait ça, puisque ça va être la partie suivante, mais en quoi c'est intéressant d'installer le dialogue très tôt, c'est que notre enfant va nous voir comme ça, comme un modèle non pas absolu, mais comme un modèle d'expression, d'opinion et de discussion possible. Juste la possibilité d'une discussion. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord avec ce qui est dit. C'est juste un espace libre pour exprimer consciemment ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on pense et ce qu'on a envie d'agir. Que l'autre soit d'accord ou non, que l'autre ait les mêmes valeurs ou non, c'est pas tant ça l'important pour le moment. Mais au moins que l'enfant puisse affirmer sa rayure d'expression, affirmer sa rayure d'identité et affirmer sa rayure d'autonomie dans un cadre sécurisé, dans un cadre familial. Il aura d'autres supports, il aura d'autres tuteurs de dialogue, d'autres adultes autour de lui pour discuter, pour dialoguer. Mais la famille est quand même un terrain très intéressant, un laboratoire hein, d'expérimentation pour l'enfant qui lui permettra de réinstaller ça avec ses amis, avec ses collègues, avec sa famille de cœur et aussi sa famille de sang, à projeter un peu le modèle vers son avenir plus tard. Voilà un petit peu tout ce que le dialogue n'est pas, tout ce que le dialogue a comme intérêt sur le long terme dans l'éducation de notre enfant. Et on va passer aux conseils pratiques. Comment faire pour avoir un dialogue de qualité avec nos tout jeunes enfants? Je vais déjà partir de certaines réflexions que j'entendais à l'école en disant « Oui, mais nous, on ne leur parle pas, ils sont trop petits, ils ne comprennent pas, on n'a rien à leur dire, on verra quand ils seront grands. » Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu autour de vous, quelque chose qu'on entend parfois aussi à la crèche, notamment hein, chez certains papas qui disent « Non, mais là, j'arrive pas à parler à mon bébé, ça m'intéresse pas. » Donc les mentalités évoluent hein, de plus en plus. Il y a des papas qui arrivent à parler avec leur jeune bébé, soit qu'ils aient été déjà sensibilisés à ça par l'autonomie, notamment pendant la grossesse, ou alors qu'avec les lectures, avec les études, avec les podcasts, de plus en plus, on arrive à poser des mots sur ce que vit le jeune enfant. La première piste, c'est vraiment dès la naissance de verbaliser, de poser des mots sur ce qui se passe autour de notre bébé, de notre tout jeune enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'installe dans l'écharpe, on l'installe dans la poussette, on l'installe dans la voiture. De poser les justes mots, de verbaliser, de donner le lexique exact, pas en langage bébé, pas en gazouillis, vraiment les mots, la structure, la syntaxe réelle. Comme ça, l'enfant baigne dans un langage approprié, dans un langage structuré, dans un langage adulte, dont il va s'imprégner. Hein. Maria Montessori utilisait le terme d'esprit absorbant. Notre bébé, depuis la naissance, il entend, il note, il trie, il classe. Il n'a pas conscience encore de tous les sens de tous les mots, mais il voit avec ses 5 sens un petit peu le ressenti, l'ambiance globale de ce mot, à quoi il correspond. Et plus la répétition va s'accentuer, plus les gestes vont se répéter et plus les mots auront du sens en compréhension, donc d'abord en écoute, et puis ensuite il pourra les émettre lui-même, il pourra les prononcer et il pourra les utiliser à bon escient parce qu'il les aura entendus dans des contextes logiques, dans des contextes cohérents, dans des contextes congruents. Donc j'avais déjà abordé tout ce sujet-là dans l'épisode 19 si vous avez envie de compléter sur pourquoi c'est utile de verbaliser et de créer un espace de parole pour le jeune enfant. Mais là, je vais me remettre du côté de la posture du parent. Donc, on va observer tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il voit. Par exemple, si notre enfant regarde les feuilles bouger derrière la fenêtre, on va juste observer ce qu'il est en train d'observer. Donc, la première piste, réellement, c'est de se mettre à la place de notre enfant, à sa hauteur. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il peut penser? Ça reste des suppositions, hein, ça reste des hypothèses. On peut écouter ce qu'il a à dire. Au début, on ne va pas forcément comprendre son énoncé puisqu'il va être un petit peu mélangé, tâtonnant ou un peu bredouillant. Et puis, au fur et à mesure qu'il va grandir, vers 2, 3, 4 ans, les mots vont s'articuler de plus en plus et on va pouvoir avoir des phrases, des échanges plus construits, plus aboutis et on va pouvoir dialoguer avec lui en posant des mots réalistes sur ce qu'il vit au quotidien. La première phase de dialogue avec l'enfant, elle va être surtout une phase d'observation de ce qu'il a à sa portée, de sa manière de voir le monde. Pour pouvoir dialoguer avec un tout petit, on va vraiment se mettre à sa place et observer ce qu'il voit, observer ce qu'il peut ressentir, observer ce qu'il peut penser. Vous avez vu que cette première partie du dialogue, elle est silencieuse. C'est en observant mon élève, c'est en observant mon enfant que je peux me rendre compte qu'il a une vision du monde complètement différente de la mienne et que je vais pouvoir tisser un lien de dialogue avec lui comme une passerelle entre ce qu'il ne connaît pas encore et ce qu'il commence seulement à découvrir par rapport à mon monde, mon bagage et mon ressenti qui est évidemment x10, x20 en fonction de l'âge que j'ai et des expériences que j'ai. La deuxième étape pour construire un dialogue avec notre enfant, ça va être de poser des questions de curiosité, des questions ouvertes, des questions qui vont lui permettre de décrire, d'expliquer, d'expliciter. On va éviter de plaquer tout de suite sur lui ce qu'on croit avoir compris. On va plutôt l'inviter à expliquer. Comme dans l'accord Toltec, pas de supposition. Tout ce qu'on a eu dans la phase d'observation de notre enfant, on va se le dire comme hypothèse. Et ensuite, on va essayer de trouver la bonne question pour qu'il puisse expliciter. Comment est-ce que c'est pour toi quand tu joues avec le sable? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu ressens? Donc, suivant l'âge de votre enfant, vous allez essayer de poser une question ouverte, une question qui s'intéresse à ce qu'il réfléchit, à ce qu'il vit, à ce qu'il ressent. Et ensuite, il va soit vous répondre avec un sourire, donc avec du non-verbal, ou alors il va faire semblant d'ignorer la question parce que ce n'est pas le moment pour lui de parler, mais ça montre quand même un intérêt sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas décourageant le fait qu'un enfant ne nous réponde pas. En classe, ça arrive très souvent qu'on propose, qu'on fasse des questions de curiosité et que l'enfant ne nous réponde pas. Non pas parce qu'il n'a pas envie de nous répondre, mais peut-être que la phrase, la résonance, l'implication dans son activité du moment ne nécessite pas pour lui de réponse. Donc ça va maturer, peut-être qu'à un autre moment il viendra répondre à notre question dans l'après-midi alors que nous on a déjà oublié qu'on avait posé la question le matin. Laissons aussi à l'enfant le choix de ne pas répondre à un dialogue qu'on amorcerait, qu'on envisagerait, qu'on proposerait puisque le dialogue ça se construit à deux. Sinon ça deviendrait un interrogatoire, ça deviendrait une pression supplémentaire. Donc dans la notion de dialogue avec notre enfant, il y a un libre consentement des deux sur cette conversation. Si on force l'enfant à répondre, ce n'est plus un dialogue. Si on force l'enfant à nous répondre par oui ou par non, ce n'est plus une question de curiosité. Quand vous avez une petite discussion spontanée avec votre enfant, essayez de voir la forme de vos questions. Si ce sont des questions ouvertes, s'il a le choix dans la réponse, si ce sont des questions plutôt fermées, auxquelles il ne peut répondre finalement que par oui ou par non ou par je sais pas, et de voir quelles phrases vous pourriez moduler, quelles questions vous pourriez changer un petit peu, modifier, pour que l'enfant ait plus de possibilités de réponse. Troisième piste, ce serait de s'accorder à ses connaissances et à ses demandes du moment. Parfois, nous, on a une grande période où on est en activité créatrice, artistique, modelage, et on aimerait entraîner nos enfants ou nos élèves dans cette phase-là. Parfois, c'est pas du tout le bon moment pour les enfants de s'intéresser à ce thème. Mais quand il vient vers nous Et quand il nous parle d'un nouveau sujet, peut-être que d'un coup, il s'est pris d'une passion pour le camion poubelle, ou peut-être que d'un coup, il s'est pris d'une passion pour la Reine des Neiges. Ça va être lui qui va apporter le sujet, finalement, de discussion et de dialogue. Qu'on va redescendre un peu à son niveau de discussion, à son niveau d'intérêt, sa base du moment, sa base de passion du moment, un peu comme un fan. Je vois aussi mon ado qui a eu sa grande période K-pop où elle venait me parler de K-pop et des chanteurs de K-pop. Vous imaginez bien que ce n'était pas ma référence actuelle de musique et qu'il a fallu que j'essaye de me concentrer pour comprendre qui était qui chantait quoi, pourquoi ça lui plaisait, pourquoi les tenues, les chorés, d'aller un petit peu sur sa colline, d'aller un petit peu comprendre en quoi ça lui plaît, en quoi ça lui fait, ça le fait vibrer en fait, notre enfant. Ce thème-là, ce sujet-là, ça va peut-être être éphémère ou prolongé, on verra bien, c'est lui qui choisira. Mais dans le dialogue, on peut s'accorder à sa demande du moment sans lui faire la morale sur « tu devrais pas » ou « c'est pas terrible » ou « change d'idée » ou non, se mettre vraiment en horizontalité avec ce qu'il a envie d'aborder lui. Quatrième piste, c'est de rester dans les mots réalistes et impeccables par rapport à la discussion. Donc ça, c'est un peu plus difficile quand le dialogue arrive à un moment où nous, on est un petit peu en flamme intérieurement. Mais de se demander qu'est-ce qu'il a compris du sujet. Si on reparle des sujets un peu tendus comme comment on fait les bébés, c'est quoi la mort, qu'est-ce qui s'est passé pour la cousine. Des moments un peu durs de la vie où notre enfant veut entendre des mots précis, veut entendre une certaine congruence entre ce qu'on affiche comme gêne et des mots qui seraient concrets. Donc dans ce choix des mots, vous pouvez à tout moment dire que vous allez en reparler plus tard ou vous pouvez faire le choix de poser quelques mots dans un premier temps et de dire qu'on y reviendra ensuite. Si vous avez envie de vous documenter sur la manière de présenter la sexualité aux enfants, sur la manière de parler de la mort, vous avez le droit de ne pas être au bon timing pour ce dialogue-là, mais de montrer l'intérêt à votre enfant en disant « ce sujet m'intéresse aussi, c'est normal que tu te poses des questions, c'est un sujet qui est important dans la vie des gens et ça y est, je vois que tu es prêt pour entendre tout ça. On se prend un moment, peut-être samedi matin, pour en discuter. » Guider le dialogue vers quelque chose de réaliste. Si l'enfant est prêt à poser la question, c'est qu'il est prêt à entendre une réponse spontanée, mais aussi une réponse au juste niveau de compréhension pour son âge. Donc n'hésitez pas à lui reposer une question pour voir vraiment à quel degré il a envie d'avoir un détail. Peut-être que dès la première réponse de votre part, il sera soulagé et il repartira jouer sur autre chose. Donc, ce n'est pas la peine de préparer une conférence sur la mort ou sur la sexualité. Peut-être que les deux premières réponses vont apaiser son degré de curiosité sur le sujet et qu'il reviendra à nouveau vers un dialogue à ce sujet-là, à un autre moment, dans un mois, dans un an. On ne sait pas. L'imprévisibilité des enfants permet d'avoir des souvenirs spontanés et légers. Hein. Je vous en parlais dans l'épisode 3 qui sont assez imprévisibles. Et en classe, on en a beaucoup, hein, des moments comme ça où l'élève arrive vers nous, maîtresse, et il nous balance une phrase qu'on a rien vu venir. Et on se dit, ok, est-ce que c'est le bon moment pour parler là-dessus, de dialoguer? On fait une séance collective, on fait une séance individuelle. Donc, c'est des choses qu'on a vécues beaucoup en classe. Hein. Et si vous êtes enseignant, vous avez sûrement plein d'exemples qui vous viennent, ou en crèche aussi. La curiosité de l'enfant, c'est vraiment une pépite. On peut s'en saisir vraiment comme apport spontané de sujet et de dialogue. Il n'y a pas de tabou dans le dialogue avec un enfant, il n'y a pas de tabou dans le dialogue avec un élève. Si c'est votre enfant, c'est encore plus facile. Parce que si c'est un enfant que vous gardez occasionnellement, peut-être que s'accorder sur son niveau de connaissance est plus délicat, puisque vous ne savez pas s'il a déjà été confronté avec la mort, s'il a déjà été confronté à tel ou tel événement sur lequel vous pourriez vous raccrocher au niveau de son ressenti déjà vécu. L'enfant, comme je vous avais expliqué sur sa manière d'apprendre, hein, je crois que c'est l'épisode 43, il met vraiment bout à bout des petites bribes d'expérience. Il construit, il réaménage ses Lego hein, dans sa base de données. Mais quand on sait ce qu'il a déjà vécu sur ce sujet-là, c'est plus facile de remobiliser un souvenir qu'il a déjà eu pour rajouter le petit détail en plus qui fera la clarté sur son aménagement entre les connaissances. Si c'est votre enfant, vous avez peut-être un peu plus de visibilité sur ce qu'il a déjà vécu. Peut-être que, si je reprends le sujet de la mort, on a déjà vu des escargots écrasés sur le trottoir. Donc, au niveau de la mort, Siana a déjà entendu le mot « mort » pour des escargots, le mot « mort » pour des plantes. Et ce qui fait quand le chat de sa cousine est mort, on a pu mettre le mot mort assez facilement, assez naturellement, parce que le mot mort avait déjà été évoqué dans le cadre des plantes, dans le cadre des escargots. Donc, quand le chat est mort, ça n'a pas été un sujet qui a été difficile à aborder au niveau du dialogue et de la conversation. Une fois de plus, hein, ça revient au petit conseil numéro 1 de se mettre à la place de l'enfant. Est-ce que c'est un sujet dont il a déjà entendu parler ou jamais? Est-ce que c'est un sujet qui est accessible avec votre état de présence actuel ou est-ce que vous avez besoin de vous reformuler un petit peu des phrases pour savoir si c'est la bonne formulation? Vous pouvez même faire un petit jeu de rôle, peut-être avec votre partenaire de vie, en disant « si je lui dis ça, tu crois que c'est approprié ?» Et puis on peut compter aussi sur la souplesse des enfants qui reposeront une autre question si notre réponse n'est pas claire. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'anticiper sur des jours et des jours pour répondre à une question un peu gênante de notre enfant. Prenons du recul en disant « sa curiosité est légitime, il a besoin d'une réponse sur ce sujet-là. Soit je suis prêt à lui donner maintenant parce que moi je ne suis pas trop mobilisée au niveau de mes flammes désagréables et que je suis à peu près en état de lui parler sans mettre trop d'affect. Ou alors si c'est difficile pour moi à ce moment-là, de repousser la conversation à un autre moment pour trouver des mots qui me paraissent plus appropriés parce que l'enfant sera capable d'entendre une grande partie des mots qu'on va lui dire quoi qu'il arrive et quel que soit son âge. » Dans notre intention de lui donner une information claire, concise et pertinente, ça suffit à ce qu'il soit attentif et à ce qu'il soit reconnaissant qu'on ait pris en compte sa demande, qu'il se sente écouté dans sa question. À minima, juste lui dire « je comprends que tu te poses cette question-là, c'est vraiment important pour toi et je trouve que c'est une question intéressante, je vais y répondre ». Donc voilà sur les sujets un petit peu tabous, ce qu'on pouvait évoquer. Ensuite, sur le respect de son intimité, sur le respect de son rythme et de son identité. Ça, c'est un peu plus délicat si c'est un élève ou si c'est un enfant qu'on garde occasionnellement, puisqu'on n'est pas encore complètement au fait de ce qu'il a compris du monde, de ce qu'il a compris des relations et de ce qu'il a compris de ses propres fonctionnements intérieurs, d'émotions et de besoins. Une fois de plus, vous pouvez lui poser une question qui l'amènerait à réfléchir à ce qu'il croit déjà savoir, ce qu'il a déjà compris, ce qu'il veut vraiment connaître, donc d'affiner par un questionnement le dialogue vers lequel vous croyez que l'enfant veut aller. On se fait parfois une idée complètement fausse du dialogue qui est attendu par l'enfant, parce que nous, on arrive avec notre propre filtre et notre propre prisme. Lui poser des questions pour affiner vraiment ce qu'il attend de la conversation, ça nous permet de ne pas nous éparpiller en considération un peu aléatoire. Je vais vous ramener toute la partie qu'on avait évoquée dans l'épisode 56 sur l'écoute empathique de l'autre. L'écoute empathique de l'autre, notamment de notre enfant, c'est éviter de lui couper la parole, le laisser dérouler sa pensée, le laisser processer finalement ses propres émotions et ses propres pensées dans l'ordre dans lequel ça lui vient. Évidemment, c'est un peu plus emmêlé chez un enfant puisqu'il passe d'une émotion à l'autre, d'une pensée à l'autre. Donc nous, si on cherche du sens et de la cohérence, on pourrait être assez linéaire et on pourrait être assez ferme et cassant dans la façon de dialoguer parce que les thèmes sont un peu flous et sont un peu éclatés dans une conversation avec un enfant jeune. Mais si il y trouve son compte, pourquoi pas? On peut être un support de dialogue sans avoir beaucoup parlé. Et ça me paraît intéressant de le préciser ici, c'est qu'on voit un dialogue entre adultes comme s'il y avait autant de questions et de réponses des deux côtés, alors que le dialogue avec l'enfant, ça peut être juste de la présence, ça peut être juste un hochement de tête, ça peut être juste une reformulation à l'autre. C'est en ça que ça ressemble finalement à ce que je vous explique souvent sur le binôme empathique en communication non violente. C'est de permettre à l'enfant de poser toutes les questions qu'il a, de voir s'il a envie de nous expliquer ce qu'il a compris. Et quand il s'arrête, on peut considérer soit qu'il n'a plus besoin d'une réponse, soit qu'il attend justement notre réponse à ce moment-là. Et ça va être en l'observant que vous allez savoir si cette discussion est finie ou si cette discussion continue. C'est assez drôle, hein, d'ailleurs, en tant que parent, de se demander si la discussion est finie ou pas. Parce que l'enfant, il peut avoir fini, il voulait juste expliquer tout ça, il voulait juste poser ses questions et puis il repart jouer. Alors que nous, on aurait pu continuer pendant 20 minutes, puisqu'on avait encore du sujet, on avait encore de la matière. Mais l'enfant n'était peut-être pas venu pour avoir un débat entier ou une conférence entière. Il était venu juste pour poser 2, 3, 4 questions et il est reparti en ayant eu ses 4 réponses. Donc vraiment, un dialogue avec un enfant, c'est très, très sur mesure, c'est très individualisé, enfant dépendant, en fonction de son âge, en fonction de ses goûts, en fonction de la relation que vous avez avec lui, en fonction du temps que vous avez avec lui. Peut-être que le sujet au milieu de la salle d'attente du médecin, ça peut nous mettre mal à l'aise. Et puis finalement, c'est le moment qu'il a choisi pour le dialogue. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Je vais vous laisser décider des trois dernières conversations vraiment importantes que vous avez eues avec votre enfant en vous disant... Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a eu ses besoins de curiosité nourris, ses besoins d'expression nourris, ses besoins de comprendre, de connaissances nourris? Ou est-ce qu'on est resté un peu sur notre faim et lui et moi, etc. Parce que nous, on a un besoin de comprendre notre enfant, on a un besoin d'exprimer aussi et de transmettre à notre enfant des choses. Et parfois, c'est le bon moment pour lui, mais parfois, c'est surtout le bon moment pour nous et on fait un peu fi de son désir du moment. Donc c'est à reconsidérer sur le fait de ne pas toujours relancer une conversation. Des fois, la conversation s'arrête d'elle-même, que ce soit avec un adulte, mais là particulièrement avec un enfant. On va pouvoir aussi rappeler pendant le dialogue les limites, la façon de s'exprimer. Tout n'est pas possible quand on dialogue avec un enfant. L'enfant ne peut pas mettre au milieu d'un dialogue une insulte, une injure, quelque chose qui déborderait de votre cadre ou de votre limite. Le dialogue n'est pas la porte à tous les excès et à tous les débordements. Donc dans le dialogue, il y a aussi la responsabilité de chacun, le respect de chacun, le cadre de vos règles de vie, que ce soit en vacances, que ce soit à la maison, que ce soit dans un lieu public. Le dialogue est aussi le sujet sur l'autorité, le sujet sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Dialoguer ne veut pas dire accepter, dialoguer ne veut pas dire donner la parole et admettre que tout ce qui est dit est bon. On reste à une place d'adulte quand on dialogue, on reste le garant de la bienséance et de la bonne organisation de la famille, que ce soit au niveau logistique, au niveau langage, au niveau respect, intégrité. Par rapport aux ados, ce dialogue, il va pouvoir aussi permettre de développer son sens critique, sa manière de voir hein, le monde avec des yeux un peu plus adultes vis-à-vis de la société de consommation, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de la publicité, vis-à-vis du rapport à l'argent, à l'apparence. Tous ces thèmes sur un dialogue avec un ado, c'est pareil, c'est toujours inattendu. On ne sait jamais ce que l'ado va répondre, on ne sait jamais où la conversation va nous emmener. Néanmoins, ça paraît très intéressant dans la société actuelle d'armer nos enfants d'un sens critique assez bétonné. J'en ai beaucoup parlé dans l'épisode 57, donc je vais m'arrêter là sur les ateliers philosophiques et le sens critique, et je vous invite à écouter l'épisode 57 pour en savoir plus. Par contre, sur le sujet des ados, ce que j'aimerais évoquer avec vous dans un dialogue avec nos ados, c'est pendant le dialogue de le faire reformuler ce qu'il a compris aussi, de ce qu'on a expliqué. Parce que parfois on envoie des phrases, on apporte des arguments et en fait ils nous paraissent clairs et explicites et l'ado en face qui est en construction n'a pas du tout compris ce qu'on lui avait envoyé, émis et dit. On peut lui demander ce qu'il a compris de notre intervention dans le dialogue parce qu'on peut avoir des surprises sur ce qu'il a compris. Je vous invite à essayer ça si vous avez des ados à la maison parce que moi j'ai parfois encore quelques surprises sur mes interventions vis-à-vis de la grande. Quand c'est un dialogue pour essayer de résoudre un conflit ou une situation difficile, dans les ouvrages de discipline positive, on parle aussi d'établir un contrat avec notre ado. Quel est l'objectif qu'on essaye d'avoir tous les deux, hein, le compromis, l'objectif factuel, l'objectif smart, donc quelque chose de spécifique, de mesurable, une action qui va pouvoir être dans le temps, qu'on va pouvoir vraiment vérifier qu'elle a eu lieu, qu'elle a été respectée. Le dialogue permet d'aboutir au compromis final. C'est pareil, ce n'est pas descendant. Chaque personne, donc et l'ado et le parent, apporte des arguments pour que le compromis satisfasse les deux parties. Donc là, le dialogue est un moyen d'aboutir à une solution qui résoudrait un conflit ou une problématique familiale. Donc le dialogue est à la fois un objectif, mais il est aussi un outil au quotidien pour sortir d'une conversation difficile. De la même manière que je vous disais que c'est pas moralisateur et que c'est pas descendant, si on arrive à admettre que l'opinion de l'autre compte et que sa façon de voir le monde est aussi intéressante que ma façon de voir le monde, on arrive à redescendre un peu en pression, on arrive à remettre un peu d'air dans la conversation et à appeler ça un dialogue et non plus une prise de force ou une prise de pouvoir ou une certaine domination sur ce que notre enfant faisait ou ce que notre ado voulait faire. Ensuite, on va pouvoir parler aussi dans le dialogue de ce qu'on vit nous, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu quand on était enfant, quand on était ado. Donc le dialogue sert aussi à révéler une partie de notre fonctionnement interne. Ça dépend du moment, ça dépend des circonstances. Il y a des moments qui sont mieux choisis que d'autres. Mais c'est vrai, quand notre ado est à l'écoute, que les écrans sont éteints, que l'ambiance est paisible, ça peut être le moment de dialoguer avec notre ado sur sa vision du monde, sur sa vision des relations humaines, des relations amoureuses, du travail, de l'argent, et de proposer aussi comment nous, on a vécu tous ces passages de l'adolescence, comment on a vécu le changement de notre corps, le changement du rapport à l'autre, nos premières relations amoureuses. Ce sont des éléments qui, une fois de plus, vont s'ajouter à sa base de données, à lui. Il va pouvoir trier ce qu'il veut garder, ce qu'il veut repousser. Dans sa période d'affirmation, il mettra sûrement de côté toute une partie des choses qu'on lui a dites, qu'on lui a partagées pour s'affirmer et pour s'autonomiser. Et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, dans ce qu'on aura proposé dans le dialogue, ça reste des informations, tout comme les informations qu'il lit sur TikTok, qu'il lit avec ses potes dans les réseaux mutuels. Tout ça, ça reste une base de données qu'il pourra activer, trier et sélectionner plus tard. Donc le fait de parler aussi de nous, de parler aussi de notre rapport à la colère, de notre rapport à la frustration, de notre rapport à l'échec, c'est pertinent dans un dialogue pour que l'enfant ne se sente pas nul, que l'enfant ne se sente pas en décalage avec l'adulte qui saurait tout, qui serait parfait, qui aurait tout compris. Et on en revient à une certaine humilité en fait dans notre discussion en disant « Mais oui, moi je te vois en colère, tu as tout à fait le droit d'être en colère. Moi aussi j'étais en colère hier parce qu'il était arrivé ça. » Et de détailler un peu comment nous on apaise nos émotions, comment on scanne nos flammes, comment on met en place des temps de qualité pour nourrir nos besoins. Tous ces sujets-là hein, dont je vous parle en continu, hein, que ce soit dans les réels, dans les TikTok ou dans les rooms ou dans les podcasts, soit sur le scan, l'épisode 69, soit sur la contamination émotionnelle sur l'épisode 71. Et puis là, sur la puissance du modèle, vous aviez l'épisode 6 qui vous disait « Plus l'adulte est conscient de ce qu'il diffuse comme information, de ce qu'il incarne, de ce qu'il résonne en fait avec la vie de l'enfant, plus l'enfant va pouvoir absorber aussi ce mode de comportement-là. Si on est dans un dialogue qui est très descendant avec nos enfants, à un moment, il va ressentir le rapport de force à chaque fois qu'on va commencer une conversation. Ça peut être dommageable pour la suite si on veut rester le porte-avions de notre adolescent. Ça peut être dommageable pour la suite si on voudrait garder un échange, un lien et un contact quand il va grandir. Parce que plus on va l'écouter, plus on va permettre un dialogue horizontal et plus il aura envie, lui, de lui-même, venir nous parler. Si on veut garder le fil de conversation, le fil de conscience, le fil de confiance et le fil de connexion avec ce qu'il vit, ce qu'il ressent, on peut l'installer très tôt. Puisqu'à la phase des adolescents, il y a un moment où ils se replient un petit peu sur leur intimité, sur leurs copains, sur leurs copines. Et de toute façon, on en saura moins à ce moment-là. Si la manière de dialoguer a été installée depuis qu'il a 2, 3, 4 ans, à 14, à 15 ans, on pourra encore garder ce lien de dialogue parce qu'il aura été installé très tôt. Il reste encore deux pistes à vous proposer. La première, c'est de passer aussi des dialogues légers, de détente, de célébration. Qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire ce week-end? Donc là, de partir vraiment sur des dialogues un peu plus légers. On a parlé hein, beaucoup des dialogues autour des sujets tendus, mais de partir aussi sur des dialogues légers, sur des temps de qualité en famille. Pendant un moment, on se réunissait quand on avait fait notre composition familiale avec donc, la grande. Je lui disais « qu'est-ce que tu as envie de faire ce dimanche ?» Donc elle proposait trois idées sur ce dimanche. Et puis Michael proposait trois idées et moi je proposais trois idées. Et on essayait de voir comment c'était compatible pour que chacun puisse passer un super dimanche. De la même façon, on peut faire un tableau de gratitude sur les dernières vacances, qu'est-ce qu'on a aimé, de quoi on se rappelle, quels sont les souvenirs photos, faire un petit scrap ou faire peut-être un tirage photo des meilleurs souvenirs des vacances. Ça relie, ça fait dialoguer, ça mobilise un peu la gratitude aussi et la satisfaction de vivre des choses en famille, de vivre des choses séparément. Quand ils partent en colonie, par exemple, vous avez peut-être un blog photo ou un WhatsApp photo où vous avez des souvenirs de ce que l'enfant a vécu et ça permet un bon dialogue aussi quand l'enfant revient de sa colonie ou quand l'enfant revient de du séjour chez les grands-parents, que vous puissiez dialoguer sur les photos, les activités qu'il a faites. C'est un support, la photo, c'est un support, le blog, qui est quand même très pertinent pour créer le dialogue, susciter le dialogue, de la même façon que le cahier d'activité de votre enfant quand il rentre pendant les vacances avec son cahier de classe, de moyenne section, de CP, de CM2, de partager avec lui un moment autour de classeur, ce support, cet album de comptines, pour qu'il puisse expliciter, pour qu'il puisse expliquer ce qu'il vit dans un lieu où nous, on n'a pas accès. Nous, on n'a pas été à la chorale, on n'a pas été au spectacle de cirque, on n'a pas été à la colo de ski. L'enfant a à nouveau un petit pouvoir de présenter les choses de la manière dont il le veut, puisqu'il est maître de son discours, puisque nous, on n'était pas là. Donc, il redevient l'émetteur du dialogue. Nous, on est en récepteur. Il est confiant puisque c'est lui qui l'a vécu et après il peut s'assurer qu'on a bien compris ou nous on peut poser d'autres questions pour en savoir plus. Vraiment voir le dialogue comme quelque chose de gagnant-gagnant pour les deux personnes, aussi bien pour le jeune que pour l'adulte, ça demande une certaine posture, ça demande une certaine ouverture et une certaine écoute. On n'a pas toujours le temps de le faire, ne culpabilisons pas non plus de ne pas pouvoir être dans un dialogue 100% horizontal à tous les moments de la journée, mais de créer peut-être un petit moment dans la journée de 4 minutes où on est vraiment en dialogue profond avec ce que l'enfant vit, ce qu'on a vécu aussi. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec n'importe qui autour de nous, mais de se connecter avec une personne et d'exprimer vraiment qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et d'entendre que l'autre nous écoute, c'est vraiment une qualité formidable dans la relation et encore plus dans la relation d'éducation avec nos enfants. Et la dernière idée, elle part de l'impermanence, épisode 66, et en fait c'est vraiment de partir de l'idée que notre enfant va changer d'avis très régulièrement, et d'entendre avec surprise et curiosité tous les énoncés de cette semaine, en pouvant très vite nous reformuler que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est sa pensée d'aujourd'hui. Et peut-être que dans un mois, il aura changé d'avis. De ne pas monter au créneau tout de suite, de ne pas bondir sur son énoncé d'aujourd'hui, juste de l'entendre, peut-être d'avoir un demi-sourire et de lui dire « Ah, mais aujourd'hui tu penses ça, c'est intéressant, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Et une fois de plus, de renvoyer la balle de son côté pour qu'il puisse se rendre compte peut-être tout seul que cette idée est farfelue. On ne va pas poser, nous, le jugement que cette idée est farfelue. On peut l'amener petit à petit, hein. Ça vous rappelle peut-être vos cours de philo où il y avait la maïeutique de Socrate qui posait des petites questions à l'autre pour qu'il se rende compte de sa pertinence ou non d'argument. Et de faire ça avec nos enfants, moi je me rends compte que de plus en plus en classe et avec mes filles, je suis dans la description et dans la reformulation de ce qu'elles disent. Quand l'élève pose une action, je suis en train de reformuler ce que j'ai vu de cette action et je l'invite à décrire, je l'invite à expliciter pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qu'il attendait comme résultat, est-ce que le résultat est à la hauteur, qu'est-ce qu'il en pense, et vraiment de lui offrir sur un plateau ce qu'il pense des résultats de sa propre action. De le rendre complètement responsable de sa pensée, de son action, de son émotion, et de lui dire qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu voudras le refaire la prochaine fois? Est-ce que ça ne te plaît plus? Est-ce que tu aurais pu faire autrement? Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Vraiment de questionner et de lui proposer de voir les choses depuis sa colline à lui, sans induire que moi, depuis ma colline, je trouve ça inutile ou pas réalisé comme j'aurais fait moi, etc. Comme dans l'épisode de la semaine dernière, hein, on a tout un tas d'étiquettes et de jugements qui nous viennent spontanément. On peut les entendre de nous à nous, mais à aucun moment on est obligé de les mettre dans le dialogue. Si la situation s'y prête, si on sent que l'autre est capable de l'entendre, pourquoi pas? Si on est dans un dialogue avec un adulte responsable, équilibré et non alcoolisé, pourquoi pas? Mais vous sentez bien que dans certaines situations, toute vérité ou toute pensée n'est pas toujours bonne à dire si on veut juste garder le lien, si on veut juste garder la connexion à l'autre, on ne va pas lui balancer tous nos jugements et nos étiquettes à la figure. J'arrive au bout de ce que j'avais écrit sur ma petite fiche de notes. Donc je suis à l'écoute de tout ce que vous avez envie d'apporter en plus sur le sujet du dialogue avec l'enfant. Vous avez pas mal d'épisodes en connexe, hein, si vous avez envie d'approfondir. Il y avait aussi l'épisode sur sa propre identité, de l'aider à s'orienter vers qui il est réellement, qui était l'épisode 60. Et puis sinon, vous pouvez aller picorer l'épisode 12 sur la verbalisation, l'épisode 19 sur aider l'enfant à oser parler dans la famille, l'épisode 56 sur l'écoute empathique, l'épisode 57 sur les ateliers philo, et puis aussi l'épisode 6 sur la puissance du modèle de l'adulte ou la contamination émotionnelle, dans le 71. Et puis le petit dernier, c'était le 66 sur l'impermanence de nos enfants, qui rebondissait sur le 37. On dirait un peu les numéros du loto, je vais m'arrêter là. Et ça me fait, il y a une petite idée qui me vient là, que je n'avais pas notée sur mon cahier. Vous allez vous rendre compte, si vous venez régulièrement dans les rooms Clubhouse, que c'est aussi ma manière d'aborder les rooms. Quand je dialogue avec les personnes qui montent sur scène avec moi, on a souvent un thème qui est défini dans la room. Et au fil du thème, on s'éloigne vraiment, vraiment du sujet initial, parce qu'une idée en emmène une autre, qui en emmène une autre, qui amène un souvenir, qui amène un partage. Et donc, dans le dialogue, la richesse, c'est de voir que l'état initial ou la question initiale a été dépassée, a été amplifiée, a été modulée, et on arrive à quelque chose de qualitatif à la fin d'une room, alors que ce n'était pas du tout le sujet de départ. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, je vous invite à vous créer un profil Clubhouse, c'est complètement gratuit. C'est une application que vous pouvez charger sur votre téléphone. Et puis après, vous pourrez rencontrer plein de salons de discussion sur la politique, la philosophie, l'économie, l'entrepreneuriat, l'éducation ou la parentalité. Donc le club s'appelle, comme le podcast, il s'appelle Les Petits Plus Zen. Je pense que vous retrouverez facilement, c'est la même photo que sur mes réseaux sociaux. De la même façon, quand je dialogue avec une maman que j'accompagne, on pose exactement les mêmes bases. Chaque personne dans la séance arrive avec son bagage, avec son expérience. L'expérience de la maman que j'accompagne est tout aussi importante que ce que j'ai vécu moi-même, que ce que j'ai vécu avec d'autres mamans. Et il est important pour elle, comme pour moi, d'entendre son point de référence, son point d'expérience, son état émotionnel du moment, ses flammes du moment. Et donc à chaque fois, on part vraiment du scan de sa cheminée pour voir où elle en est émotionnellement et sur quels besoins et sur quelles rayures de son arc-en-ciel on va pouvoir travailler ensemble. Ce dialogue, je vous souhaite de l'installer de vous à vous, de vous à votre enfant, de vous à votre partenaire de vie, de vous à vos collègues, de vous à vos amis, et de vivre, ressentir la qualité d'un dialogue vraiment de cœur à cœur, de lien d'humain à humain, sans vouloir prendre le pouvoir sur qui que ce soit. On est là vraiment pour mettre à disposition des idées, pour mettre à disposition des arguments qui feront mouche ou pas, qui seront repris ou pas. Moi, c'est aussi l'objectif que j'ai avec ce podcast, c'est de dialoguer avec vous et d'apporter tous les éléments que j'ai pu collecter au cours des 22 ans à l'éducation nationale et avec mes enfants. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour les messages que vous m'envoyez en privé. Si vous avez l'élan, merci de laisser un message ou un avis sur Apple Podcast pour faire référencer le podcast un peu plus loin, qu'elle touche d'autres familles et que ses contenus puissent apaiser aussi la vie de famille d'autres personnes autour de vous. Je vous dis bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!